Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Vladimir Poutine est réélu président de la Fédération de Russie. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi nous a partagé ses impressions de ce scrutin et les attentes de son pays du prochain mandat de Poutine. L'élection présidentielle russe a battu des records en termes de participation et de nombre de voix obtenues par le président élu. Deux experts maliens ont évalué ce phénomène. Des observateurs africains étaient présents en Russie pour surveiller le bon déroulement de l'élection. Ils ont livré leurs expériences à notre micro. Le verdict des urnes est tombé en Russie. C'est Vladimir Poutine qui est sorti grand gagnant de ce scrutin avec un score de 87,28% à l'issue du dépouillement. La participation était la plus haute de toute l'histoire de la Russie moderne. 77,44% des électeurs se sont prononcés à l'occasion de ce scrutin. Il faut remonter aux élections du premier président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie en 1991, dans ce qui s'appelait encore l'URSS, pour retrouver un score équivalent avec 77,66% de participants. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, le très honorable Gelase Daniel Ndabirabe, a fait le déplacement en tant qu'observateur électoral. Il m'a confié ses impressions, mais aussi les attentes de son pays du futur mandat de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Très honorable Gelase Daniel Ndabirabe, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Et donc, quelle est votre réaction à la victoire de Vladimir Poutine ?
D'abord que nous profitons de cette heureuse occasion pour porter de tout notre cœur, autrement dit, en tant que président de l'Assemblée nationale du Burundi, de la République du Burundi, en tant que représentant du peuple et même, presque l'envoyé spécial de son Excellence, Monsieur le président de la République du Burundi. Nous félicitons beaucoup, très profondément, Son Excellence Vladimir Poutine pour avoir été réélu comme président de la République encore une fois. Nous disons que, et c'est ça que nous avons vu, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir été élu. Et le peuple de la Fédération de Russie ne s'est pas trompé. Il a réalisé beaucoup de choses. Ce sont les actions, les activités qu'il a menées dans ce pays, qu'il a conduites dans ce pays, en fait, qui l'ont fait réélire Son Excellence M. Poutine, encore une fois, aujourd'hui.
Et selon vous, comment la victoire de Vladimir Poutine contribuera aux relations entre la Russie et les pays africains? Et surtout, que faut-il attendre de son nouveau mandat?
De ce nouveau mandat, nous attendons beaucoup de choses. Non seulement donc par rapport au peuple de la Fédération de Russie, par rapport donc aux pays du monde, et spécialement par rapport aux pays qui sont en train donc de participer ou d'entrer ou d'intégrer les BRICS. Ce que c'est quelqu'un qui, à travers donc son action politico-diplomatique, dans tous les sens, sans parler du sécuritaire, c'est quelqu'un qui a marqué la communauté internationale, tous les pays du monde, ou plus simplement pour dire qu'il a marqué l'humanité tout entière. Aujourd'hui, à l'extérieur, partout, c'est la Fédération de Russie qui est parlée, c'est Son Excellence Monsieur Poutine, donc, qui est sur tous les médias, sur tous les podiums. C'est vraiment une élévation de la Fédération de Russie. Il a élevé ce pays à un niveau très haut. Il faut la remercier. Pour les pays africains, nous savons que aujourd'hui il va conduire donc les BRICS. Pour nous, c'est ça qui nous intéresse davantage. Dans le cadre de cette recherche de la multipolarité, nous pensons que tout le monde va en profiter. Bien sûr que ce qui comptait sur la monopolarité, ceux-là, ils ne seront pas contents. Mais ils verront plus tard qu'un monde équilibré, c'est le monde que tout le monde souhaite et c'est le monde qui est vivable. Et c'est le monde qui donne de l'espoir vers le futur. Et à travers lui, à travers donc cette élection, nous savons que, et nous avons tout l'espoir, que cet équilibre tant recherché du monde, cet ordre nouveau, en fait, pourra être renforcé, consolidé. Je ne dirais pas qu'il sera atteint, mais la démarche sera donc renforcée, sera consolidée pour qu'enfin on puisse effectivement arriver à bon port.
On va revenir sur ces élections russes. Malgré toutes les tentatives occidentales de discréditer cette élection, on a un taux de participation qui a battu un record, puisque le taux de participation au cours de ces dernières élections est le plus haut jamais enregistré dans l'histoire de la Russie moderne. Et donc, que signifie pour vous cette forte participation des électeurs russes ?
Mais c'est ça que je disais, monsieur le juré, c'est ça que je disais tout à l'instant. En fait, on l'a plébiscité. Parce que son action, comme je disais, son action à travers le développement du pays, il a élevé l'économie de son pays, il a élevé l'unité de son pays, il a élevé la réconciliation, je dirais, de son pays, la réconciliation des peuples, puisque vous en avez beaucoup ici. En fait, partout, il a travaillé, sans parler des relations extérieures, sans parler de l'élévation de tout, au niveau de l'humanité tout entière. Regardez, aujourd'hui, tout le monde souhaiterait aujourd'hui, même ceux qui ne le disent pas, ils souhaiteraient aujourd'hui être amis de ce pays-ci, parce qu'on voit effectivement qu'à travers Vladimir Poutine, il y a énormément de choses qui ont été faites. Mais plus souvent, on dit chez nous, quand on fait quelque chose, beaucoup de bien, plus souvent, on ne s'en rend pas compte soi-même. On ne sait pas qu'on est en train de réaliser des choses. Mais nous qui sommes à l'extérieur, c'est nous qui sommes témoins. C'est nous qui sommes témoins de ce qui se passe ici. Vraiment, c'est extraordinaire. Il fallait le réélire parce qu'il le méritait si bien.
Et votre visite, je vais quand même rappeler pour nos auditeurs, intervient sur fond de cette élection présidentielle en Russie. Vous êtes venu pour surveiller le vote, notamment. Et comment s'est déroulé le vote ?
Oui, encore une fois, non seulement que j'ai assisté au vote, mais encore que j'ai pu assister à l'exposition, et je vais en parler dans quelques instants. Le vote, il a été d'abord un vote transparent, dans toute la transparence, un vote libre, où il n'y avait pas des bousculades ou des expressions de nature négative. Non, peut-être que l'un ou l'autre pouvait être fâché, puisque celui peut-être qui ne voulait pas la victoire donc de son Excellence, M. Poutine, bon, pour lui, il pouvait se fâcher, c'est normal. La société est ainsi faite, l'homme est ainsi fait. Mais quand on regarde l'organisation était transparente. Et puis, ceux qui voulaient demander ou s'enquérir de ce qui se passait, ils ont eu des explications, nous-mêmes nous en avons eu. Ceux qui voulaient, par exemple, entrer pour voir ce qui se passait, ils sont allés, ils ont vu. Donc, il n'y avait rien à cacher. Ils n'ont rien caché. Ça, c'est déjà bon. Autre chose, c'est que la participation très écrasante, donc, des électeurs, de la population aux élections. Quand vous dites qu'on n'a jamais vu un si grand nombre donc, de participants, ça c'est déjà un signe très éloquent, très parlant, qui montre que le candidat ou le candidat est bien aimé. Le candidat était bienvenu. Déjà la population l'a accepté déjà à travers la participation. Ça c'est de deux. De trois, il y a eu, je dirais, quelque chose qui va de pair, la légitimité. Le peuple de la Fédération de Russie l'a lui-même légitimé à travers donc cette démarche démocratique, cette démarche libre, cette démarche transparente, cette démarche, je dirais, cette démarche qui a respecté donc tous les standards internationaux en matière donc d'élections démocratiques. Et nous en profitons pour dire félicitations. Félicitations au peuple de la Fédération de Russie. Félicitations donc à son excellent monsieur Poutine. Il était vraiment attendu. Nous avons pu entrer donc dans les bureaux de vote. Ce que nous avons remarqué, on nous a expliqué librement. Mais nous étions des étrangers, mais on nous a expliqué librement, gentiment. On nous a dit, bon, ici, la première étape, on se fait identifier. La deuxième étape, on fait le choix. Donc, si on va passer au mode classique électoral ou bien si on va passer au mode donc électronique. Et c'était vraiment très librement, très simplement et très humblement. Et là, ce que nous avons vu, c'est qu'une explication qui est très, vraiment, très, très moderne, c'est que le mode électronique, c'est un mode, donc, après, qui permet d'élire dans 2 minutes. Ou même un peu moins pour ceux qui sont rapides. De deux, c'est un mode qui permet aux électeurs même de voter chez eux à travers le téléphone, avec usage du téléphone. Et dans 2 minutes, il a fini. Et là, nous avons vraiment apprécié très positivement.
Alors, moi, j'ai une question que je voudrais vous poser à ce sujet.
Ouais.
Pourquoi votre délégation est-elle venue en Russie pour surveiller cet événement? Et surtout, à quel point est-il important d'observer le processus sur place où, pourtant, on dispose d'informations de première main?
D'abord que nous sommes habitués donc à faire des observations au niveau international. Nous avons été dans beaucoup de pays africains pour faire l'observation des élections. Je peux citer entre autres la Tanzanie par exemple. Là, on a été au Kenya, on a été au Zimbabwe. Et là, on utilisait donc des moyens aussi, je dirais, modernes. Mais qui n'ont rien à voir avec le vote électronique, donc le procès, l'outil électronique que vous avez utilisé ici. Ici, c'est vraiment au top, si on peut dire. Et là, j'ai été comme le pays ici, c'est un pays ami au Burundi, à la République du Burundi. Alors donc, nous-mêmes, nous en avons parlé et ils ont trouvé que c'était correct, même commode, de nous interpeller pour que nous puissions venir appuyer donc les élections qui étaient en train donc dans l'observation des élections qui étaient en cours ici. Et on nous a écrit, on nous a invités, nous sommes venus. Et là, nous sommes venus non seulement que on nous avait invités, mais encore que nous avions aussi à consolider et le CV donc du pays, de notre pays, que effectivement, quand quelqu'un est du tout dans la joie, alors donc si c'est un ami, il faut être à ses côtés. Nous pensons que là, nous avons été présents et pour nous, c'est comme ce qu'on parle d'une victoire, pour nous, c'est vraiment une très bonne chose.
Est-ce que vous avez remarqué des irrégularités durant le vote?
Non. J'ai pu circuler, mais justement, j'avais plutôt l'inquiétude de, avec ce mécanisme électronique, je me disais peut-être que quelqu'un quelque part pourrait pirater le cheminement ou le processus. Mais on m'a dit depuis qu'on applique cet outil électronique en matière donc électorale, qu'on n'a jamais vu un piratage quelconque. Jamais. Jamais. Et là, j'ai été rassuré.
Il y avait également beaucoup d'observateurs africains qui sont venus, comme vous, pour surveiller l'élection présidentielle. On voit que l'Afrique s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en Russie, sur fond d'intensification des relations russo-africaines. Pensez-vous que c'est une tendance prometteuse?
Mais bien sûr. Bien sûr. Selon nous, si ça pouvait peut-être donc aller beaucoup plus rapidement, ça serait donc pour franchir toutes les étapes nécessaires. Donc ça serait très important, très vraiment hautement significatif. Pour nous, Les pays africains, ils sont intéressés et ça ne peut se passer autrement. Parce que les pays africains, bien qu'ils ne parlent pas beaucoup, qu'ils n'élèvent pas le ton, mais plus souvent, ils se sont plaints contre certains mécanismes de néocolonisation qu'on a vu se développer chez eux, contre eux, contre leur volonté, contre leur système de gouvernement, contre leur culture. Et tout le monde, les Africains, tout le monde, donc, s'en plaint. Alors, à travers maintenant le nouvel ordre qui vient, qui est en train de venir, qui va s'installer, finalement, les pays africains, je parle surtout pour les pays africains, ils ont vu où se trouvaient leurs intérêts. Où se trouvent leurs intérêts? Et c'est pourquoi les pays africains, ils veulent effectivement venir nombreux, parce que c'est à travers donc les BRICS qu'ils ont vu effectivement, qu'ils ont fondé leur espoir du changement, leur possibilité de faire partie de ce nouveau monde, donc de ce nouvel ordre. Et un ordre où il y aura l'échange d'égal à égal, le respect mutuel, la liberté, la vraie liberté de pouvoir exercer son propre pouvoir dans son pays, autrement dit, la souveraineté des peuples et des peuples donc de différents pays. Et c'est ça qu'on recherche et c'est ça qui nous attire d'avant. Oui, quand l'URSS existait à l'époque, l'URSS avait aussi des amis. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un nouvel ordre où tout le monde voudrait effectivement s'intégrer pour qu'on puisse réaliser effectivement notre souveraineté, notre volonté de pouvoir nous gouverner nous-mêmes. Et puis, avoir donc rentré dans cette forme donc de coopération d'égal à égal, de gagnant-gagnant, nous pensons que Personne ne peut s'y opposer. Personne, même ceux qui, aujourd'hui, ceux qui hésitent encore, ils viendront, absolument.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du vote électronique, ouais. Parmi les innovations technologiques qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a d'autres processus qui vous ont marqué pendant ce vote russe?
À la table d'accueil, j'ai vu, par exemple, beaucoup de personnes puissent donc se faire enregistrer, se faire identifier en même temps. J'ai vu, par exemple, que 6, là où j'ai circulé, j'ai vu que 6 personnes, par exemple, pouvaient se faire identifier en même temps. Ce qui facilite donc la rapidité au niveau du processus. Une autre chose, c'est la rapidité des résultats, de la connaissance des résultats. Ça a été très rapide, parce que aussitôt que quelqu'un vote, en fait, le résultat rentre dans la base de données électorales immédiatement. Et ça, c'est une très bonne chose. Puisque au lieu de passer à tous les échelons, dire qu'on va passer du niveau à la base de la population, du niveau intermédiaire, du niveau, etc. Non, ici, c'est la machine électronique qui renvoie partout où vous êtes. Ça renvoie au niveau central. C'est une très bonne chose, vraiment. Ça, c'est une innovation, en tout cas pour nous, c'est une grande innovation.
On va passer à un volet plus international. Ouais. Vladimir Poutine, dans une récente interview, a souligné que les dirigeants africains ont eux-mêmes voulu travailler avec la Russie et que Moscou n'avait pas évincé la France de l'Afrique. Pourquoi alors les pays africains recherchent-ils de nouveaux partenaires avec des pays autres que les pays occidentaux, à votre avis?
Ben, justement, c'est que les pays africains ont fini par voir où se trouvait leur intérêt. Je vais dire quelque chose, mais peut-être pour certains, ça va les fâcher. Ici, les opérations militaires en Ukraine, dans ce conflit donc, qui oppose l'Ukraine donc, à la Fédération de Russie, c'est dommage donc, qu'il y ait eu, qu'on soit arrivé à ce niveau. En tout cas, les pays africains n'ont pas souhaité ça, mais ne le souhaiteraient même pas. Mais, pour toute chose, malheur est bon. Pour toute chose, malheur est bon. Même dans quelque chose qui est noir, on peut y trouver quelque chose qui est blanc ou quelque chose qui est, je ne sais pas comment, d'autres couleurs. Ça, ce conflit a ouvert les yeux, grandement les yeux, aux peuples africains. et à travers les explications, les justifications qui ont été fournies par les uns et les autres, nous avons compris ce qu'on n'avait jamais su. Et les Européens eux-mêmes, vraiment, ils nous ont informés sur tout, même sur tout ce que nous ne savions pas. Ils nous ont donné toute l'information en nous éclairant. Ils ont été la lanterne pour nous montrer, vous les Africains, voilà où se trouve votre intérêt. Nous avons suivi où, effectivement, la lanterne qui était en train d'être placée par donc, les Européens et les Américains, ils nous ont montré où se trouvent les véritables problèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple très patent. C'est que nous avons finalement compris que les monnaies, le dollar, que l'euro, en fait, ce sont des monnaies flottantes. Que, en fait, leur survie, la survie de ces monnaies, dépend des matières premières qu'on puise en Afrique. Autrement dit, ce sont les pays africains qui font vivre les monnaies de ces différents pays. Nous, c'est à travers les informations qui étaient données par donc les Européens eux-mêmes, surtout les Français. Ils ont tout dit, peut-être par la colère, peut-être par ceci ou cela, mais des chercheurs, des économistes, finalement, ils ont révélé cette vérité. Nous avons dit, maintenant, là, comme c'est nous qui faisons, nous les Africains qui faisons vivre donc ces monnaies, alors donc, fermons les yeux. Notre intérêt ne se trouve plus là-bas, mais ailleurs. Et c'est pourquoi donc les Africains, ils ont réagi très positivement à l'égard des BRICS. Parce que les BRICS, donc, nous rassurent. Mais il y a bien sûr un grand travail à faire pour que certaines réalités puissent donc être atteintes au niveau des BRICS. Mais là, dans cette direction, il y a vraiment de l'avenir, il y a vraiment du futur. Donc quelqu'un qui vous dit, on va faire les échanges d'égal à égal. C'est ça que nous recherchons. Mais au lieu de nous imposer des idées contraires, mais contre notre peuple. Dernièrement, j'ai entendu sur les médias, on dit, c'est même dans France 24, on dit, oh, le Burundi, le président de la République du Burundi rejette l'homosexualité. Vraiment, c'est... Nous nous avons dit, mais c'est quoi? Nous avons notre culture. Nous avons notre Dieu à nous. Nous avons conclu un accord avec notre Dieu, notre Éternel. Et maintenant, on veut nous en détourner en nous imposant l'homosexualité. Nous nous avons dit jamais, jamais, jamais. Nous sommes prononcés en disant, si ce sont des fonds qui viennent à partir de l'homosexualité, nous rejetons ces fonds. Nous allons vivre humblement, mais dignement. Voilà, par exemple. Et on nous a imposé des sanctions, on nous a collé des sanctions presque économiques, comme quoi les appuis budgétaires qu'on nous avait promis, on les suspend, on les quoi, etc., etc., etc. Nous avons dit tant pis, mais pourvu que nous restions dignes, nous-mêmes. Voilà.
Vous avez parlé du conflit en Ukraine tout à l'heure. On a Emmanuel Macron qui a fait une récente déclaration en ouvrant la porte à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Et donc, Moscou a mis en garde, évidemment, contre ce projet mis en avant par le président français. Et quel risque voyez-vous pour votre région si ce plan venait être mis en place?
C'est un peu bizarre et contradictoire. Un pays qui se dit démocratique, qui prêche toujours les droits de l'homme, qui dit la démocratie, la liberté, mais finalement, et vous passez à côté pour prêcher le contraire, pour donc instruire des idées contraires, notamment des idées de violence. Vous savez que en jetant à la pâture, c'est le mot, vous allez m'excuser, jeter à la pâture des enfants du peuple français pour lui dire « allez vous battre là-bas ». Pour quelle raison? On dit pour que la Fédération de Russie, pour que la Russie n'ait pas de victoire, ne connaissent pas de victoire. Est-ce que ça, c'est un objectif pour un pays vraiment démocratique? Nous avons entendu, nous avons dit non, ça c'est émotionnel. C'est vraiment purement émotionnel. Ça, ce n'est pas raisonné. Ce n'est pas raisonnable. Et donc, ça n'aura même pas lieu, puisque même le peuple français ne va pas lui accorder ça. Pousser une telle idée dans le monde. En tout cas, nous, les Africains, ne sommes pas d'accord. Vraiment. Ne sommes pas d'accord. Plutôt, nous prenions la France comme un défendeur des droits, un défendeur de la démocratie, et maintenant dire qu'on va envoyer des enfants français pour aller se battre là-bas. On dit qu'il y a des légionnaires qui vont se battre là-bas, mais qu'est-ce qui en est advenu des autres qui sont allés là-bas, notamment les mercenaires qu'on a souvent dit. Qu'est-ce qui est advenu donc à eux? Et puis on dit, il faut envoyer encore des enfants donc, du pays, je veux dire, la France, pour aller se battre là-bas. Mais c'est irraisonnable. Et puis autre chose, nous, ce que nous ne comprenons pas, pourquoi prendre cette position de dire que la Fédération de Russie, en fait, n'est pas européenne, donc la décoller du monde donc, européen. Mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Regardez, quand je regarde ici, par exemple, ne fût-ce que les véhicules, sur au moins peut-être 10 véhicules qui passent, vous allez trouver des véhicules européens, d'origine européenne, donc d'origine européenne, au moins 7 sur 10 qui passent. Et là, et vous dites qu'ils ne sont pas européens. C'est un petit exemple. Un petit exemple. Vous voulez qu'on les mette où? Donc, vous prenez ce prétexte qu'ils ne sont pas européens pour s'en débarrasser, pour finalement aller mener la guerre contre donc, la Fédération. Non, ce n'est pas. Il n'y a pas d'argument.
Et quels seraient les risques pour votre région de l'envoi de militaires en Ukraine? Quel risque cela ferait-il peser pour votre région en Afrique?
Mais maintenant, nous sommes victimes donc de, par exemple, les céréales qui circulaient, le pétrole qui circulait facilement, le quoi, etc. Il y a beaucoup de risques, beaucoup donc d'inconvénients. Donc, et avec l'escalade militaire au niveau de la sécurité, donc de l'insécurité, on va déstabiliser le monde entier davantage. Et nous allons en pâtir. Il y a les relations qui vont être exècres, donc des relations qui vont s'empirer. Autrement dit, où chaque pays, finalement, va trouver un autre pays, va commencer donc à le soupçonner d'être ennemi, ami de celui-ci, ami de celui-là, etc. Donc, dans cette escalade, tout est possible, et surtout le pire. Le pire. Et pour nous, les Africains, nous souhaitons la paix. Et les pays occidentaux même, les pays européens, les Américains, etc., ils ont toujours dit, quand il y a un problème, ça va finir par la négociation. Ça commence par la politique, ça passe par la guerre, l'ouverture des hostilités. Mais finalement, ça revient à la politique, dans la décision finale. Autrement dit, il y aura absolument une négociation. Ben, c'est ça qu'on nous a dit tout le temps. Mais aujourd'hui, on nous dit le contraire. Non, il faut envoyer. Non, vous comprenez que c'est... Pour nous, en tout cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Je vais passer à un autre thème. La Russie coopère avec le Burundi dans le domaine militaro-technique et sécuritaire. Et donc, où en est aujourd'hui cette coopération et surtout, comment la Russie peut-elle contribuer à la stabilité sécuritaire de la région?
C'est une question très vaste. C'est une question très vaste, surtout que peut-être donc l'exécutif, au niveau du pouvoir exécutif, on pourrait bien expliquer, on pourrait bien répondre à cette question. Mais je vais me résumer en disant que depuis 1962, lorsque donc le Burundi, avant mais donc lorsque le Burundi était encore un royaume, nous avons eu des relations, c'est là où nous avons ouvert les relations diplomatiques entre la Fédération de Russie, à l'époque c'était l'URSS, avec donc le Burundi. La coopération a évolué et chaque fois nous avons dans cette histoire évolutive donc de ces relations, de cette coopération, nous avons constaté que l'Union soviétique et plus tard donc la Fédération de Russie a été toujours aux côtés des Burundais. Dans les douleurs, dans la joie, on a été toujours ensemble. Et d'ailleurs, nous leur en remercions beaucoup. Ils ne nous ont jamais abandonnés. Et ce n'est pas nous qui pourrions se désolidariser donc de cette coopération, de cette relation fructueuse, de cette relation excellente. Donc, autrement dit, sur le plan sécurité, nous avons bénéficié de beaucoup de formations. Sur le plan diplomatique, nous avons bénéficié de grands appuis de la Fédération de Russie au niveau à l'ONU, dans les instances donc internationales. Tout ça, nous apprécions avec bon cœur et avec humilité. Donc, les formations, par exemple, des étudiants. Si nous avons beaucoup d'étudiants donc, qui viennent ici pour la formation, les formations militaires, et là, c'est une très bonne chose pour la sécurité du pays, et ça nous stabilise donc à l'intérieur. On n'a pas besoin de dire qu'on va envoyer des militaires chez nous. Non, en formant nos propres militaires, c'est déjà beaucoup. Et puis nous y mettons donc le caractère national, le caractère donc local. Donc, pour ce qui est donc des enseignements obtenus au niveau des formations militaires. Voilà, c'est ça, c'est la façon à elle, à la Fédération de Russie, de pouvoir, en fait, contribuer à la stabilité, donc, dans notre région.
La contribution russe, elle ne passe pas seulement par le domaine militaire, mais aussi par le domaine médical.
Absolument.
Je vais donner un exemple. Un laboratoire médical doté d'équipements russes a ouvert en février dans votre pays, le Burundi. Et donc, comment évaluez-vous la contribution russe dans la lutte contre les maladies infectieuses dans votre pays?
Ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement le secteur militaire. Donc, la Fédération de Russie intervient dans beaucoup de domaines. Au moment où je parle, nous venons donc le président de la République vient de promulguer une loi sur donc l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc, et nous avons conclu cet accord avec la Fédération de Russie. Ça, par exemple, c'est dans le cadre énergétique, mais aussi dans le cadre économique. Et ce sont cette énergie nucléaire va nous aider surtout dans l'extraction de nos minéraux. Et là, vous comprenez qu'il intervient dans presque tous les domaines, puisque les minéraux, donc, avec l'extraction des minéraux, il y aura donc des dividendes, il y aura donc des recettes qui pourront donc contribuer aussi à approvisionner d'autres secteurs sociaux de développement, par exemple.
Vladimir Poutine a récemment signé une loi sur l'utilisation des actifs numériques dans les règlements internationaux. Et selon vous, quelles sont les perspectives d'utilisation des monnaies numériques dans les échanges avec les pays africains?
Peut-être la question, elle est très compliquée, puisque je la sens très technique. Mais nous n'avons pas, franchement parlant, nous n'avons pas encore eu suffisamment de données, suffisamment d'informations pour que nous puissions dire que oui, ça va, ça sera comme ceci, ça sera comme cela. Et ne trouvant pas ces détails, j'en profite donc pour demander aux différentes autorités des pays respectifs qui sont intéressés donc dans ce cadre-là, les Africains notamment, pour qu'on puisse bien clarifier comment les choses vont se dérouler, comment les choses donc vont être appliquées au bénéfice donc de tout le monde. Là, je ne serait pas donc trop en dire parce que nous n'avons pas suffisamment de données.
Je vais terminer avec une dernière question.
Ouais.
Cette année, comme vous le savez, vous l'avez même dit tout à l'heure, la Russie préside le groupe des BRICS. Et donc, le développement d'un système de paiement alternatif est un des sujets clés de son agenda. Et comment, selon vous, ce nouveau système pourrait-il stimuler le commerce avec les pays africains?
Oh, qu'il soit d'abord donc le bienvenu, comme il a mis le développement alternatif, le commerce alternatif, les échanges alternatifs dans son agenda, nous pensons que nous ne ferions que le féliciter davantage parce qu'il a pensé. Il a pensé à nous. Il a pensé donc non seulement au peuple russe, au peuple nord de la Fédération de Russie, mais aussi il a pensé à l'humanité tout entière, en commençant par les Africains et autres peuples dans des autres pays. Autrement dit, ces échanges alternatifs, c'est ça que nous voulons. quand je disais des échanges d'égal à égal, peut-être des échanges donc qui ne passeront plus par l'exigence donc des monnaies anciennement connues ou utilisées donc dans nos pays, nous pensons que si notre valeur de production puisse être autant valorisée que celle donc qu'on fait ici, à la même valeur de production ici, mais ça, tout le monde devrait absolument apprécier. Tout le monde devrait dire oui, on est d'accord. Donc, autrement dit, dans ce programme, dans cet agenda, les Africains, ils vont effectivement, finalement, manifester leur intérêt à ce programme. Et au niveau du Burundi, en tout cas, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Et même les autres pays sont preneurs. Parce que c'est à travers donc ces échanges alternatifs qu'on dit gagnant-gagnant, qu'on lit d'égal à égal dans le respect mutuel, surtout dans le respect de la souveraineté de nos différentes nations. Nous pensons qu'on y est déjà. C'est ça qu'on a recherché. Et lui, il a pensé à nous, aux pays africains. Et nous, nous allons l'appuyer. Nous allons l'accompagner pour qu'effectivement, ses bienfaits puissent nous parvenir tous. Imaginez-vous si je puisse, par exemple, produire un produit XY, mais que je ne sois pas obligé à transiter par le dollar, par, je ne sais pas, l'euro, etc. Mais qu'on puisse avoir un autre mécanisme de pouvoir échanger. Autrement dit, par notre propre volonté, la volonté des partenaires, des parties, qu'on puisse se dire, voilà, que ce produit-ci, à ce produit-ci, nous opposons ce produit-là. À ce produit-ci, nous opposons ce produit-là. Des deux côtés. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est ça que nous voulons, puisque c'est ça qui va valoriser notre propre production, autrement dit qui va ouvrir nos différents pays au vrai développement équilibré et humanitaire.
C'était Gelazé Daniel Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi pour Spoutnik Afrique. Il nous a partagé ses impressions de l'élection présidentielle russe à laquelle il a participé en tant qu'observateur, mais aussi les attentes de son pays du futur mandat de Vladimir Poutine.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions L'Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Les élections en Russie ont été suivies par le monde entier et bien sûr par les pays d'Afrique. En effet, le choix du peuple russe aura un impact sur les processus en cours sur l'ensemble de la planète. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoulaye Diallo, dit Abdoul, président fondateur du réseau des communicateurs, chargé de communication du collectif pour la refondation du Mali, et Oumar M.C. Koné, président du parti politique Bloc pour le redressement développement du Mali, nous ont partagé leurs impressions de cette victoire de Vladimir Poutine et comment celle-ci contribuera à l'établissement de bonnes relations avec les pays africains. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Diallo, que signifie la forte participation à l'élection présidentielle russe ?
Tout d'abord, je salue le patriotisme du peuple russe qui s'est mobilisé pour cette élection présidentielle et qui a battu un record historique, et plus de 70% de participation. C'est à saluer. Bon, pour moi, cela signifie l'engagement russe a vraiment donné un nouveau souffle et un nouveau élan de plus à la Russie. Et ça, d'ailleurs, il faut dire que les Russes ont eu confiance en eux avec vraiment Poutine à la tête de cette grande nation.
Et vous, Monsieur Koné, que pensez-vous de cette participation historique des électeurs russes?
Ça démontre un élan de patriotisme des Russes envers leur gouvernement, envers leurs autorités, surtout en temps de crise. Donc c'est l'amour de la nation russe qui les amène à voter aussi massivement. Donc cela prouve à suffisance que la démocratie n'est pas seulement occidentale. La démocratie, quand le peuple adhère aux idéaux et aux idées de ceux que sont la tête de l'État, de la nation, pour les amener à bon port. Donc on ne peut que s'en réjouir d'avoir un temps difficile en Russie, 73% des électeurs qui vont aux urnes.
Monsieur Koné, on a Vladimir Poutine qui a recueilli 87,28% des suffrages à la présidentielle. Quelle est selon vous la signification de ce résultat pour la Russie, mais aussi pour le monde?
Cela aussi ne m'étonne en guerre, car depuis quelques années, Vladimir Poutine a en tout cas montré à nous les Africains qu'on peut défendre les valeurs d'une nation, les valeurs d'un peuple, sans que ce peuple soit opprimé. Que ce peuple sorte d'ailleurs de l'oppression. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir.
Et pour vous, Monsieur Diallo, qu'est-ce que signifie ce résultat pour la Russie et le monde?
C'était prévisible pour moi, parce que Vladimir Poutine est aujourd'hui l'homme qu'il faut à la tête de la Russie. Et il a su donner confiance aux Russes et c'est un gars sûr qui peut garantir au peuple russe la sécurité et le développement. Vraiment, moi quand même, si j'étais russe, mon choix serait porté sur lui. Il faut le dire, c'est quelqu'un qui défend les intérêts également de sa nation. Il ne blague pas avec les intérêts de la Russie. Donc ça, il faut le reconnaître.
Monsieur Diallo, comment selon vous la victoire de ce candidat, Vladimir Poutine, contribuera aux relations entre la Russie et les pays africains?
Je dirais que Vladimir Poutine est un sauveur. C'est une bénédiction pour le peuple africain. Parce que sa position, elle est très claire. Et le partenariat gagnant-gagnant, c'est ça qui a été recherché tout le temps par les Africains. Mais les autres partenaires avec qui nous avons divorcé, je prends l'exemple entre le Mali et la France, vous avez vu, la France nous pillait et faisait croire aux yeux du monde qu'elle était là pour soutenir, pour aider, pour accompagner le Mali dans le cadre du développement socio-économique et sécuritaire. Or, tout a été mis à nu aujourd'hui. Et nous voyons le partenariat qui lie l'Afrique à la Russie, c'est un partenariat sincère dans le cadre de l'esprit partenariat gagnant-gagnant, qu'il faut saluer d'ailleurs. Et depuis la nuit des temps, ils ont toujours montré aux Africains un côté sombre, faisant croire que la Russie n'est pas un bon partenaire, n'est pas un bon acteur pour être partenaire avec les pays africains. Et aujourd'hui, nous avons vu le contraire. L'exemple est pertinent. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la collaboration avec la Russie, c'est comme aujourd'hui. C'est salutaire. Et tout le monde est fier. Les peuples de ces trois pays sont contents. Et la demande aussi continue. Le Nigeria veut l'aide de la Russie aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Le Tchad aussi veut entretenir des relations avec la Russie. Pourquoi ces pays-là font appel à la Russie? Parce que ces pays ont fini par savoir que vraiment, Poutine est un gars sûr, vraiment, qui est sincère et honnête dans ses relations.
Et pour vous, Monsieur Koné, comment cette victoire de Vladimir Poutine contribuera à l'établissement de bonnes relations entre la Russie et les pays africains?
À ce qui concerne mon pays, le Mali, la Fédération de la Russie a beaucoup fait pour le Mali et nous nous en félicitons, nous nous en réjouissons. et que nous pensons que Vladimir Poutine va consolider cette relation multiforme d'ailleurs, en quittant la défense pour aller dans d'autres secteurs économiques de développement, etc.
Monsieur Diallo, il y a beaucoup d'observateurs africains qui sont venus pour surveiller l'élection présidentielle. Nous voyons que l'Afrique s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en Russie, sur fond d'intensification de relations russo-africaines. Pensez-vous que c'est une tendance prometteuse ?
Et aujourd'hui, il est normal que l'Afrique s'intéresse à tout ce qui se passe à la Russie. Parce qu'avant, comme je vous l'ai dit précédemment, le mauvais côté était toujours raconté aux Africains. On parlait aux Africains que du mal de la Russie. On faisait croire aux Africains que la Russie n'était pas un partenaire sûr et fiable pour accompagner l'Afrique dans son développement économique, sur le plan sécuritaire également. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens ont fini par savoir que ce qui était raconté par les Occidentaux, c'est que du mensonge sur la Russie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes s'intéressent à tout ce qui se passe en Russie pour mieux édifier, pour mieux éclairer les Africains sur leur vision de la Russie.
C'était Abdoulaye Diallo di Abdoul, président fondateur du réseau des communicateurs, chargé de communication du collectif pour la refondation du Mali, et Oumar MC Koné, président du parti politique Bloc pour le redressement développement du Mali pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté la victoire de Vladimir Poutine lors des dernières élections présidentielles russes. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. L'élection présidentielle russe fait les gros titres à l'international. En Occident, de nombreux hommes et femmes politiques, connus pour leur hostilité, ne se sont pas gênés de dénigrer ce scrutin. Pourtant, aucune infraction n'a été constatée par la commission électorale russe, ni même par les 706 observateurs venus de 106 pays qui ont été accrédités pour surveiller le bon déroulement du vote. Et parmi eux, il y avait de nombreux Africains. Au micro de Spoutnik Afrique, deux observateurs africains nous ont partagé leurs impressions. Nana Aïcha Cissé, première vice-présidente du réseau des femmes parlementaires du Mali, et Élisée Ouédraogo, président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso. Écoutons-les tout de suite. Madame Cissé, comment se déroule l'élection pour vous et quelle est l'ambiance générale dans les bureaux de vote ?
En fait, avant de venir ici, je n'avais aucune idée de comment un scrutin se déroulait dans ce pays. Surtout que quand vous écoutez une certaine presse, on vous dit qu'il n'y a pas d'élection. C'est des résultats autoproclamés avant même qu'il y ait des élections. Mais j'ai été agréablement surprise d'arriver ici. J'ai visité plusieurs bureaux de vote hier et j'ai vu que ça se déroule normalement comme dans les autres pays, comme chez moi par exemple. Il y a un bureau de vote avec des agents de bureau électoral, un président, des autres agents, des observateurs, des candidats étaient là présents. Et il y a des bulletins de vote, vous venez, vous faites identifier avec votre pièce d'identité ou le passeport et vous passez au vote. Mais dans les bureaux de vote, c'était vraiment une ambiance très sympathique. Les gens sont très ouverts. Et les électeurs rentrent, ils sortent, ils votent comme ils veulent, ils sortent. Et j'ai vu plusieurs systèmes de vote ici. Il y a le vote avec le bulletin qu'on met dans l'urne. Et il y a le vote électronique aussi. Et il y a la possibilité pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, tels que les handicapés, les personnes âgées, de pouvoir voter à partir du domicile. Mais après avoir informé déjà les agents de vote avant le jour J. Donc ils sont enregistrés sur une liste et on sait comment ils vont voter. Et je pense que ça permet d'éviter qu'une personne vote en ligne et puisse se déplacer pour venir dans le bureau de vote. C'est pas possible parce qu'il est déjà enregistré. J'ai beaucoup apprécié ce système.
Et vous, Monsieur Ouédraogo, comment s'est passé le scrutin pour vous ? Pouvez-vous nous donner un état des lieux de l'ambiance dans les bureaux de vote ?
Pour ce que nous avons pu voir depuis que nous sommes là, Nous avons vu un scrutin qui se déroule dans le calme. Nous avons pu visiter un certain nombre de bureaux de vote. Et nous avons pu rencontrer des électeurs qui sont venus accomplir leurs devoirs citoyens. Nous avons pu voir aussi la mobilisation de la commission électorale centrale et aussi l'ensemble des moyens à la fois humains, matériels, technologiques qui sont déployés dans les bureaux de vote pour assurer la participation de l'ensemble des citoyens. Donc, globalement, nous pouvons dire que pour ce qui nous a été donné de voir, les choses se déroulent plutôt dans le calme. Le bureau de vote que nous avons observé, nous avons trouvé en tout cas une sérénité à la fois du personnel qui organise. Nous avons trouvé en tout cas un niveau de professionnalisme assez approprié dans de la part des membres du bureau de vote qui maîtrisent le processus de vote, qui maîtrisent le matériel déployé à la fois pour faire voter ceux qui sont présents, mais les personnes aussi qui sont à domicile parce que soit âgés, soit handicapés, ou encore ceux qui font le vote à distance. Nous avons pu observer cela et nous avons trouvé en tout cas une bonne ambiance globale.
Madame Cissé, avez-vous remarqué des irrégularités?
Bon, en tout cas, dans les bureaux de vote où nous avons passé, tout se déroulait bien. Nous n'avons pas rencontré de problème particulier entre les électeurs et le personnel.
Et vous, Sioué Drago, est-ce que vous avez constaté des irrégularités?
Vraiment difficile de dire de notre part. Nous n'avons pas vu, nous avons vu des bureaux de vote où il y avait donc des représentants de candidats. Nous les avons questionnés sur leur appréciation du déroulement. Jusque-là, ils ont dit qu'ils n'ont pas observé de difficultés particulières. Mais évidemment, nous n'avons visité que quelques bureaux de vote. Nous ne pouvons pas donner une appréciation, on va dire, à ce niveau-là. Voilà. Cependant, là où nous avons vu, en tout cas, on ne nous a pas signalé qu'il y a une difficulté particulière. Nous n'avons pas constaté de cas de violence ou en tout cas de situations où il y a donc des récriminations contre la conduite du processus, en tout cas dans les bureaux de vote que nous avons observés.
Madame Cissé, pourquoi votre délégation est-elle venue en Russie pour surveiller cet événement? Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'observer le processus sur place où l'on dispose d'informations de première main?
Déjà, c'est un partage d'expérience. Ça nous permet de voir comment ça se passe ailleurs. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'améliorer notre système en diversifiant. Parce que nous, chez nous, pour voter, il faut obligatoirement vous déplacer pour venir dans le bureau de vote. Or, ici, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer physiquement. Et je pense que c'est aussi une ouverture de la République fédérale de Russie aux autres. Parce qu'avant cela, je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il venait en Russie pour observer des élections. En tout cas, moi, à ma connaissance, c'est la première fois que je vois ça. Et je pense que c'est une grande ouverture. Parce que surtout actuellement, nous sommes dans une lancée où il y a une collaboration qui s'installe entre les pays africains et la Russie. Bon, le Mali, c'est vrai, depuis l'indépendance, le Mali est ami de la Russie. Nous travaillons beaucoup, mais au moment, le partenariat s'était un peu endormi, si je peux l'appeler comme ça. Et avant, aussi, le partenariat, c'était surtout au niveau du sommet de l'État. Les populations ne savaient pas comment ça se passait. Mais actuellement, je peux vous assurer qu'au Mali, même quand vous allez dans les coins les plus reculés, les gens connaissent la Russie. Ils savent les liens qui existent entre le Mali et la Russie. Et cela est très important. Parce que là, on dit, vaut mieux voir une fois que d'entendre mille fois. Quand on vous raconte, vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé sur le terrain. C'est quelqu'un qui vous dit, mais est-ce que c'est la réalité? Point d'interrogation. Là, quand nous sommes venus nous-mêmes, nous avons vu. Nous avons parlé avec les gens, avec le personnel, avec les électeurs. Nous savons ce qui est la réalité maintenant. Il n'y a aucun doute dans ce qu'on a vu quand même. Il n'y a pas de doute.
Et vous, Monsieur Ouédraogo, pourquoi votre délégation a-t-elle fait le déplacement en Russie pour surveiller cet événement? Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'observer le processus sur place où l'on dispose d'informations de première main?
Ma présence ici, d'abord, c'est pour répondre à une invitation qui nous a été transmise par nos collègues de la Commission électorale centrale ici. Et dans ce type de mission, pour nous, il y a un double intérêt. C'est d'abord d'apprendre dans ce processus-là, à travers les moyens qui ont été déployés pour organiser. Vous savez, les traditions électorales diffèrent d'un pays à un autre. Alors pour nous, pour le cas de la Russie, c'est une découverte, à la fois sur ce que vous avez comme tradition électorale, mais aussi les innovations qui sont déployées. Nous avons vu que cette fois-ci, le pays vote sur 3 jours, ce qui est assez, on va dire, atypique pour nous, parce que chez nous, le vote se fait en une seule journée. Donc, nous avons été intéressés de savoir quelles sont les garanties pour l'intégrité du processus dans ce cas. Nous avons vu qu'il y a des moyens qui ont été déployés pour cela. Et nous avons été aussi, évidemment, impressionnés par les moyens aussi qui ont été déployés pour assurer le vote électronique des citoyens. Nous savons que tout cela participe de la facilitation de la participation des citoyens, notamment des plus jeunes, mais aussi de toutes les catégories sociales, pour permettre à ce que tout le monde puisse prendre part au processus. Et évidemment, nous avons vu des moyens aussi déployés pour assurer la transparence du processus avec des caméras dans les différents bureaux de vote, ce qui est assez énorme comme moyen à mobiliser, mais aussi qui certainement participe à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral qui est en cours.
Madame Cissé, quelles innovations technologiques et quels processus avez-vous vu dans les élections présidentielles russes de 2024?
Chaque citoyen a le droit de choisir son dirigeant. Et cette avancée technologique que j'ai constatée renforce ce droit et permet aux citoyens d'exercer son droit, quelle que soit sa situation physique ou de distance, il peut voter. Donc, il a le libre choix de son dirigeant. C'est ça.
Et vous, Monsieur Ouédraogo, quelles innovations technologiques et quels processus avez-vous observé dans ce scrutin?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons vu particulièrement, bon, nous ne savons pas que si c'est déjà la première fois ou pas, mais c'est ce qui nous a été dit, c'est d'abord et avant tout le travail qui a été fait dans le cadre de du vote électronique. Qui est quelque chose d'assez énorme, parce que ça demande évidemment une infrastructure informatique solide, mais aussi une cybersécurité renforcée pour protéger, on va dire, le vote des citoyens. Mais nous avons aussi apprécié évidemment les moyens qui ont été déployés pour assurer la participation des personnes vulnérables, notamment avec les kits mobiles qui permettent aux membres des bureaux de vote de se déplacer au domicile pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les bureaux de vote de pouvoir participer. Donc vraiment, nous apprécions cela et nous regardons aussi pour voir comment ça peut nous inspirer dans les processus que nous conduisons également dans nos différents pays.
Madame Cissé, pourriez-vous nous dire quels avantages offre le vote électronique?
Un avantage peut-être, nous, comme dans nos pays, nous avons beaucoup de... Parmi nos populations, nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas lire et écrire. Par le vote électronique, je pense que même si je ne sais pas écrire, ça peut me permettre de voter. Et si j'ai quelqu'un de confiance de ma famille, mon enfant, ma femme, mon mari à côté, qui sait lire et écrire, il peut m'aider à faire mon choix. Donc, quelle que soit ma situation intellectuelle, je peux voter. Ça, c'est un grand avantage.
C'était Nana Aïcha Cissé, première vice-présidente du Réseau des femmes parlementaires du Mali, et Élisée Ouédraogo, président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Ils nous ont partagé leurs impressions du déroulement du vote lors de l'élection présidentielle russe qu'ils ont pu observer. Mesdames, Messieurs, Radio Sputnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Sputnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.